Le journal Hugo Lanoë. Bonjour Hugo.
Bonjour Laetitia, bonjour à tous. À grands coups de fumigène et de klaxons, une soixantaine de livreurs Deliveroo ont bloqué hier des livraisons de repas près de Paris. Tous dénoncent la nouvelle grille tarifaire et des baisses de revenus allant jusqu'à moins 30%. Reportage à leur côté à suivre dans un instant. 2019, une année noire pour le miel. La canicule et le printemps froid et pluvieux a mis en péril certaines ruches. On fait un premier bilan dans quelques minutes avec les apiculteurs ardéchois. Les guerres et les cortèges de déplacés. En Syrie, le conflit dure depuis 8 ans. Plus de 5,5 millions de Syriens ont fui leur pays. Des exilés qui subissent des pressions, notamment en Turquie ou encore au Liban, vous l'entendrez. Et puis le Paris Saint-Germain s'apprête à entamer sa nouvelle saison en Ligue 1. Coup d'envoi ce soir à 21h face à Nîmes. Absent du terrain, Neymar partira ou partira pas. On voit ça à la fin de cette édition.
7h50, le premier invité de la matinale, Anne Clergue, galériste et fille de Lucien Clergue, le fondateur des Rencontres de la photographie d'Arles, dont on fête les 50 ans cette année.
France Inter.
Action coup de poing des livreurs Deliveroo hier en région parisienne.
Deux groupes d'une trentaine de livreurs sont allés bloquer deux plateformes à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis et Courbevoie dans les Hauts-de-Seine. Des plateformes qui réunissent plusieurs restaurants sans clients directs mais qui produisent pour Deliveroo. Les raisons de la colère, la nouvelle grille tarifaire qui entraîne une baisse de leur rémunération. Marine Proté y était. Reportage.
Fumigène, klaxon, c'est dans cette ambiance que les livreurs de Deliveroo ont pris la route en direction de ce qu'ils appellent les usines de l'entreprise à Saint-Ouen. Il s'agit d'une douzaine de restaurants qui ont regroupé leur cuisine et qui ne fonctionnent que par un service de livraison à domicile. C'est donc, d'après les grévistes, le meilleur moyen de se faire entendre.
On fait ça pour faire perdre de l'argent à Deliveroo, pour qu'ils nous entendent, qu'ils remontent les prix à 5 euros minimum. On travaille pour 2,50 euros, 3,50 euros, avec les charges, les impôts à la fin de l'année, mais on n'est plus du tout rentable, on roule gratuitement pour eux. C'est vraiment un scandale.
Ils étaient une trentaine venus à vélo ou en scooter, leur outil de travail, pour protester contre la décision de la plateforme britannique de baisser les tarifs des courses les plus courtes. Concrètement, un livreur gagne désormais en moyenne 2,60 euros par course. Il n'y a plus de tarif minimum. Alors avec ce blocage, Jérôme Pimaud, cofondateur du collectif des livreurs autonomes de Paris, veut faire réagir Deliveroo et créer un dialogue social.
On a quelques livreurs qui se sont fait appeler par la plateforme avec, on va dire, des arguments qui laisseraient penser que Deliveroo n'a pas figé ce tarif et qu'il est possible que ça soit évolutif. Voilà. On entend ça depuis 3 ans, donc on n'y croit plus, bien sûr que non.
Pour lutter contre la précarité des livreurs, il réclame à Deliveroo une rémunération minimum de 20 euros de l'heure.
Reportage signé Marine Proté et les blocages ont duré jusqu'à 23 heures hier soir pour s'assurer qu'aucune commande n'entre ou ne sorte des entrepôts de Saint-Ouen et de Courbevoie.
2019 aurait été une année noire pour les apiculteurs.
Il faut dire que la sécheresse et les deux épisodes caniculaires n'ont pas aidé, mais c'est surtout le printemps froid et pluvieux qui a mis en péril certaines ruches. Les apiculteurs de Drôme et d'Ardèche tirent un premier bilan, même si la récolte de miel n'est pas encore terminée, Axel Boursier.
En effet, il ne reste plus que le miel de lavande à récolter pour les apiculteurs, mais les premiers chiffres montrent une année très difficile selon Frédéric Bourgeot, président du syndicat des apiculteurs de Drôme-Ardèche.
On a des très 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 petites productions de miel cette année. Donc on va parler sans exagérer de 3 kilos, 4 kilos de moyenne à la ruche. Bon, moi personnellement, l'année dernière, j'étais plutôt entre 12 et 14 kilos. Les gens qui préparent de très belles ruches, quand ça veut faire, on arrive à 20 kilos de moyenne à la ruche, à la lavande.
Même son de cloche pour Jean-Marie Cécilio, président de l'Association pour le développement de l'apiculture en Auvergne-Rhône-Alpes, mais il garde espoir.
Grosso modo, les gens, ils ont perdu 2/3 de récolte, quoi, par rapport à celle de l'an dernier. Au dire d'apiculteur, c'est la pire des années. Quand on était fin juin. Maintenant, comme il y a eu quand même eu un peu de miel en été, peut-être que ce jugement sera revu à la hausse.
Il faudra attendre septembre pour un bilan définitif. Dans tous les cas, l'année ne sera pas bonne. Une mauvaise nouvelle pour la France qui importe déjà chaque année 2/3 de ses miels vendus.
Axel Boursier de France Bleu Drôme-Ardèche. 2019, une année noire pour les apiculteurs et le miel français. C'est un article à lire ce matin sur notre site internet franceinter.fr. Le corps d'une femme, retrouvé hier dans une maison près de la capitale norvégienne Oslo, elle serait de la famille du principal suspect d'une fusillade survenue plus tôt dans la journée de samedi. Fusillade dans une mosquée. Un homme de 75 ans a été blessé. Le tireur présumé, un jeune homme d'une vingtaine d'années, a été arrêté après avoir été maîtrisé par les fidèles. 70 combattants tués hier en Syrie au cours d'affrontements dans le nord-ouest du pays entre les forces du régime et les islamistes de Hayat Tahrir al-Sham, ex-branche branches syriennes d'Al-Qaïda. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, Damas a également mené des dizaines de frappes aériennes dans le nord de Hama et dans le sud d'Idlib.
La guerre en Syrie, 8 années de conflit et plus de 5,5 millions d'exilés syriens.
Des réfugiés accueillis majoritairement par la Turquie ou encore la Jordanie, mais cet été 2019 est un été noir pour ces femmes, ces enfants et ces hommes. En Turquie, les arrestations et les expulsions vers la Syrie se sont multipliées. Au Liban, petit pays longtemps généreux, des ONG dénoncent la destruction de campements par l'armée. Correspondance à Beyrouth, Laure Stéphane.
Plus de 50 ONG internationales tirent la sonnette d'alarme au Liban sur les destructions de campements de réfugiés syriens. Il y a quelques jours, des soldats libanais ont mené des descentes à l'aube dans des camps informels dans le nord du pays. Des constructions en dur ont été détruites, des Syriens arrêtés. Ces ONG dénoncent des traumatismes infligés à une population déjà fragile. Ce n'est pas la première fois que des constructions en dur sont détruites dans des camps. Beyrouth craint une installation définitive des réfugiés qui sont au moins 1 million dans le pays. Mais les destructions en cours apparaissent surtout comme un moyen d'accroître la pression sur les réfugiés pour les pousser au retour. Leur présence au Liban est instrumentalisée par des responsables populistes et dans tous les cas, la majorité des politiciens, qu'ils soient opposés ou alliés du régime syrien, décrivent aujourd'hui les réfugiés comme un fardeau. Ces destructions ne sont d'ailleurs que l'une des pressions exercées. Depuis juillet, Beyrouth fait la chasse aux Syriens sans permis de travail. Or, la plupart sont employés dans le secteur informel. Beyrouth, Laure Stéphane, France Inter.
La riposte saoudienne ne s'est pas fait attendre au Yémen. Hier, les séparatistes soutenus par les Émirats Arabes Unis ont pris Aden, ville portuaire du sud du pays, avant d'investir le palais présidentiel jusqu'alors inoccupé. Le gouvernement yéménite accuse Dubaï d'être responsable d'un coup d'État. Riyad a donc répondu. Le royaume saoudien vient de bombarder une position des séparatistes, une zone stratégique sans en préciser le lieu exact. La stupeur et le questionnement aux États-Unis. Deux enquêtes sont ouvertes, une par le FBI, l'autre par le ministère de la justice après le suicide de Jeffrey Epstein. Le financier et figure de la jet set américaine a été retrouvé inanimé dans sa cellule de la prison de Manhattan. Âgé de 66 ans, il était inculpé pour avoir organisé pendant plusieurs années un réseau de prostitution de mineurs.
En France, la circulation devrait être plus facile aujourd'hui sur la route des vacances.
Dans le sens des départs et des retours, Bison Futé voie vert sur l'ensemble du territoire. Ça sera un peu plus compliqué en Auvergne-Rhône-Alpes et autour de l'arc méditerranéen. La journée est classé orange. Alors avant de prendre la route, quelques réflexes pour conduire en toute sécurité. Vérifier la pression des pneus, les niveaux d'huile, de liquide de refroidissement ou encore d'essence. Mais surtout, n'oubliez pas de bien vérifier où vous allez. Ne faites pas comme ce couple qui voulait passer la nuit à Loubarès dans le Cantal et qui s'est retrouvé à Loubarès, certes, mais en Ardèche. La faute à un GPS mal réglé, Nicolas Joly.
Et aussi à un peu d'inattention, il faut bien le dire. En vacances dans les Cévennes, Perrine et Arnaud devaient rejoindre des amis dans le Puy-de-Dôme. Alors, comme d'habitude, ils sortent le GPS et rentrent le nom de Loubarès, le village du Cantal où ils veulent passer la nuit.
Le GPS nous indiquait 2 heures de route. Et ça correspondait à peu près au trajet qu'on était censé faire en durée. On n'a pas du tout regardé la destination et en fait on a fait confiance au GPS, on n'aurait pas dû.
Et non, parce qu'au lieu de poser leur valise dans le Cantal, ils débarquent dans un village ardéchois de 40 habitants. Ils appellent la propriétaire du gîte qui devait les accueillir. Elle s'appelle Sylvie et elle n'est pas surprise.
C'est un réel problème de localisation, de direction, d'orientation, je dirais dû à une totale confiance du GPS. C'est un phénomène qui s'amplifie d'année en année, en fait, je remarque.
Mais Arnaud nous rassure, ça n'a pas non plus gâché leur voyage.
Sur le coup, j'étais un peu énervé. Et puis, au final, ça s'est bien fini puisque les paysages étaient magnifiques. Donc, ça a été. Ça s'est quand même fini autour d'un verre de rosé, tout va bien.
Et il faut bien ça pour oublier qu'on a tout de même fait un détour de 120 km.
Mais Nicolas Joly.
Allez, le foot et la reprise du championnat de France de Ligue 1.
Avec le PSG qui débute donc ce soir face à Nîmes au Parc des Princes, coup d'envoi à 21h, une rencontre qui se jouera sans Neymar. Le Brésilien, aux envies d'ailleurs, n'est pas retenu dans le groupe rouge et bleu. Martin Bartoletti.
C'est Leonardo qui est venu déminer ce dossier explosif au PSG juste avant la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Le directeur sportif affirme que les discussions sur l'avenir de Neymar se poursuivent. Les échanges avec les clubs qui rêvent de la star brésilienne sont un peu plus avancés, mais le PSG n'est pas encore prêt à donner son accord, précise Leonardo. Comprenez, les offres de Barcelone ou de Madrid, récemment entrées dans la danse, ne satisfont pas le Paris Saint-Germain. Les envies de départ de l'attaquant ne sont pas les seuls motifs d'absence pour ce match face à Nîmes. L'entraîneur allemand Thomas Tuchel trouve son joueur un peu juste physiquement.
Il n'a pas fait une semaine complète avec l'équipe et pour ça, il n'a pas la capacité de jouer pour nous. Et ça, c'est la seule chose. Je parle avec lui et je suis concentré seulement de cette chose.
Neymar partira pas. Ce qui est certain, c'est que le club veut boucler cette affaire le plus vite possible. C'est important de définir un futur pour tout le monde, explique Leonardo, mais pas à n'importe quel prix. Le joueur le plus cher de tous les temps était arrivé dans la capitale contre 222 millions d'euros.
Martin Bartoletti, PSG Nîmes, sans Neymar donc, c'est à suivre à 21h ce soir. Avant cela, deux rencontres, Lille-Nantes à 15h, suivi à 17h du derby de l'Est entre Strasbourg et Metz.
Merci Hugo Lanoë.